18-20. Fabienne Synthès sur France Inter.
L'édito d'Anthony Bélanger dans Un jour dans le monde. Anthony, que se passe-t-il en Asie en ce moment, au moment même où on se parle, entre les États-Unis, la Chine et la Corée du Nord?
Alors on va essayer d'être didactique pour bien séparer ce qui relève de la vague et de l'écume. Mais vous avez raison de lier les trois, la Chine, les États-Unis et la Corée du Nord forment un trio infernal qui en ce moment ne s'analyse pas l'un ou les uns sans les autres. D'abord la Corée du Nord. On voit aujourd'hui, avec l'annulation par Donald Trump de son sommet du 12 juin prochain avec Kim Jong-un, que l'habileté diplomatique nord-coréenne a ses limites. Parce que que voulaient obtenir les Nord-Coréens au fond? Eh bien, ils voulaient négocier avec chacune des puissances concernées. Chine, États-Unis, Corée du Sud, et ce, séparément. En fait, depuis le grand-père de Kim Jong-un, les Nord-Coréens ont toujours joué les uns contre les autres. À l'époque, c'était les Russes contre les Chinois. Ça marchait à l'époque et ça a bien failli marcher une fois de plus. Kim Jong-un, s'est rendu par exemple deux fois à Pékin pour des discussions exclusives. Et en menaçant la semaine dernière d'annuler lui-même le sommet, eh bien Pyongyang avait réussi à semer la zizanie entre le seul front uni d'aujourd'hui, celui qui était formé ou qui est formé par Séoul et Washington.
Donc ce que vous êtes en train de nous expliquer, Anthony, c'est qu'ils ont joué et ils ont perdu.
Alors, c'est une des hypothèses qui se nourrit de la réalité. Parce que la réalité, c'est que les Nord-Coréens ne sont pas grand-chose dans les équilibres régionaux d'aujourd'hui. Par exemple, la Corée du Sud est tellement plus riche qu'eux, et surtout les connaît si bien, qu'elle est de plus en plus réticente à signer, vous savez, les habituels énormes chèques en blanc que demande Pyongyang. Mais surtout, le monde a changé depuis le grand-père de Kim Jong-un. La Chine est redevenue une puissance économique de premier plan et son armée n'est plus un tigre de papier. Elle ne voit plus du tout la présence militaire américaine de la même façon qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Les États-Unis sont en Corée du Nord et au Japon. Bah parfait, l'armée rouge prend position en mer de Chine du Sud et bientôt dans le Pacifique. La Chine joue au jeu de Go, c'est-à-dire à l'encerclement de l'adversaire. Or, souvenez-vous, le Go est un jeu à deux adversaires et pas à trois.
Ah bah alors ça, je vous fais confiance. Hein, sur ce
excite l'ombrageux Corée du Nord et son chantage à la petite semaine. De plus, la Chine vient de signer avec les États-Unis une sorte de paix commerciale armée. C'est la seule chose qui compte vraiment aux yeux des Chinois, dont l'économie ralentit, et ce depuis plusieurs années.
Mais Donald Trump, il le voulait, son sommet de Singapour, quand même?
Oui, il le voulait, mais presque trop. Il s'est fait piéger par son propre enthousiasme. Lui, qui prétend être un négociateur hors pair, a commis une faute de débutant. Je vous donne un exemple.
Allez-y.
Lorsque vous achetez une maison ou un appartement, il y a quelques règles de négo de base. D'abord, vous ne dites pas en entrant la maison, ah mais c'est exactement ce que je veux, c'est la maison qu'il me faut. Vous finassez, vous faites la fine bouche. Et puis deuxièmement, vous n'annoncez pas l'argent dont vous disposez, sinon le vendeur a toutes les cartes en main. Eh bien, en disant qu'il voulait rencontrer au plus vite Kim Jong-un, et en expliquant qu'il voulait signer un accord de paix, il a abattu d'un coup toutes ses cartes. Devant la mauvaise foi des Nord-Coréens, c'était la semaine dernière. Il ne restait donc plus qu'une seule chose à faire, annuler ou être ridicule.
Donc on peut aussi imaginer une sorte d'entente entre Corée du Nord et Chine ou pas?
Ça c'est la deuxième hypothèse.
Dans le dos de Trump alors?
Voilà, dans le dos de Trump. La Chine n'a rien à gagner en fait à une paix immédiate dans la péninsule nord-coréenne. Et en plus, elle n'a aucune confiance en Donald Trump, et croyez-moi, les faits lui donnent raison, qui dit tout et son contraire. Pour elle, le statu quo est encore la situation la meilleure. Et c'est peut-être ce que Pékin a pris le temps, vous savez, d'expliquer en par deux fois au régime de Pyongyang, sans nous, vous n'êtes rien, et les Américains sont si peu et ne nous font plus peur. De plus, les Sud-Coréens et les Japonais, vous savez, sont moins amènes que prévu, donc brisons-la. D'un côté, vous avez donc plein d'hypothèses diplomatiques chinoises, tous plus subtiles les unes que les autres, je viens de vous en expliquer deux. De l'autre, vous avez Washington, qui est gros Jean comme devant. Ça suffit, ça, au bonheur de la Chine, qui veut faire depuis toujours la démonstration dans la région de la pusillanimité et de l'inutilité américaine.
Et en même temps, Anthony, on a vu quand même beaucoup d'allers-retours ces derniers temps, beaucoup de bruit pour rien, beaucoup de paroles. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, après-demain, on se rende compte que finalement, Singapour, ça existe ou pas?
Bien
ou
est-ce sûr, que c'est mort, bien mort sûr, c'est ça qui est assez fascinant avec ce jeu à trois, c'est qu'on peut, on a pour l'instant un sommet annulé qui pourrait être reprogrammé dès la semaine prochaine. C'est palpitant tout ça, mais c'est tout de même un peu foutraque.